On regardera voir est-ce qu'on l'aurait fait même s'il y avait la règle ouais. avait été de deux buts. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça m'a allumé quelque chose, cette proposition-là de Josué Pelé.
Bon, Marc, tu ne seras pas tellement surpris, je te dis que j'ai un petit côté nostalgique, un peu classique. Donc, l'idée me flatte dans le mauvais sens du poil.
Au jeu! Deuxième prise, compte complet.
Le balado compte complet est présenté par Grand Match à Boucherville et au Saguenay. Votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Et par les Capitales de Québec. C'est plus qu'accessible, c'est plus que du baseball. Voici vos animateurs, Alain Huzeau et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte Complet. Nous sommes au début du mois de juillet. Alain Huzeau en compagnie de Marc Griffin. Beaucoup d'actions dans le monde du baseball. On en parle évidemment dans ce balado. Auparavant, petite invitation à regarder ou écouter nos balados entretiens et extra. On aura un entretien supplémentaire à vous proposer. Claude Denis Fortier, qui a évolué avec l'organisation des Aces à ce moment-là de Kansas City au milieu des années 60. Il vient de la région de Québec. Ce balado sera disponible jeudi et vendredi. Marc s'est entretenu avec quelques receveurs de métier pour parler justement de l'évolution du métier de receveur. On ne s'est pas attardé seulement là-dessus. Il en a profité donc pour demander l'opinion à des gens de baseball. C'est vendredi que ce balado sera disponible. Fort intéressant d'ailleurs. Des sujets pour aujourd'hui. On va revenir évidemment sur ce balayage des Blue Jays de Toronto face aux Yankees de New York, la situation des deux équipes. Le grand ménage chez les Nationals de Washington, gérant et directeur généraux, bye-bye. On va parler également de buts urbains intentionnels. On fait quoi avec ça, compte tenu qu'on semble éviter, par exemple, Aaron Judge, on l'a vu dans le passé, certains autres joueurs, dont Barry Bonds. Je pense principalement c'est le meilleur exemple qu'on pourrait donner. Est-ce qu'on pourrait tenter d'éviter ce genre de situation? On va parler également, dans notre carte de la semaine, Bill Veeck, un personnage plutôt spécial qui a marqué le monde du baseball. Notre profil de la semaine, Michael Bush, et quelques retours marquants, dont celui de Brandon Woodruff avec Milwaukee. Ça va faire du bien. Remarque que les partants allaient déjà bien chez les Brewers. La balade des lanceurs qui continue. Et on va parler également de la chimie. Alors, on ne fera pas un cours de chimie, mais ce qui se passe dans le vestiaire, est-ce que ça a eu un impact sur ce qui se passe sur le terrain? Donc, ça, c'est à la suite de commentaires du nouveau retraité Kevin Pillar et les Rangers du Texas. Tout de suite, Marc, dans le vif de l'action, Jays, depuis la dernière fois qu'on a fait notre balado, c'est pas compliqué, les Jays n'ont pas perdu. Et non seulement ça, mais ils sont premiers dans l'Est de l'Américaine. Ça a changé très rapidement en raison des déboires des Yankees jumelés à une semaine parfaite des Blue Jays de Toronto. Et Marc, c'est impressionnant ce qu'ils ont réalisé compte tenu de deux choses. Un, on n'a pas de rendement de la part de Varshaw et de Santander qui devaient frapper dans le cœur de la formation. Et deux, la production des lanceurs partants est en bas de la moyenne du baseball majeur. Puis tu regardes pour l'ensemble de la semaine, il n'y a pas un partant qui a fait six manches. Et pourtant, on a gagné tous nos matchs.
Oui, ben écoute, c'est ça une équipe. Hein? Parfois, c'est pas tout. Les lanceurs vont pas aussi bien qu'anticipés, mais d'autres prennent la relève. D'ailleurs, les releveurs, malgré qu'il y ait quelques noms qui sont un peu méconnus, là, on fait un bon travail. Mais je pourrais répondre par un nom, c'est George Springer. Springer qui a voulu transporter l'équipe. Et écoute, il a été. Là, c'était beau à voir, là. De voir un joueur en confiance maîtriser son art comme il l'a fait au cours de cette dernière semaine, c'est vraiment beau à voir. Mais ça traîne tout le monde avec lui. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que lorsque tu vois un vétéran comme ça qui est concentré, qui est prêt, qui veut gagner, qui a le sourire dans le visage, c'est sûr que ça déteint un petit peu sur tout le monde. Puis je pense qu'il y a une belle influence sur des gars comme Ernie Clement, des gars comme Nathan Lucas. Les gars embarquent, Alain. Puis, tu sais, des fois, là, autant individuel qu'en équipe, la confiance, ça se gagne, ça se mérite, ça, à force de travail, ça se perd rapidement aussi. Mais quand tu l'as, tout le monde embarque. Puis, Écoute, t'entends les propos de que ce soit Hoffman, Jeff Hoffman, que ce soit Eric Lauer, le nouveau venu, ils disent, écoutez, en ce moment, là, c'est, on a l'impression qu'on peut pas perdre, puis on le fait en ayant du plaisir. Ouais. Fait que ça, c'est la marque d'une bonne équipe, puis une équipe qui joue en équipe. Et tu sais, ouais. Alain, on n'est pas toujours en train de regarder ce que Vlad fait, puis est-ce que Vlad va nous sortir de là, est-ce que Vlad... Non! C'est la meilleure chose qui arrive aux Blue Jays de Toronto, c'est de jouer en équipe. Puis Vlad, habituellement, se réveille en juillet puis en août, il y a une bonne nouvelle là-dedans, alors qu'on joue du très, très bon baseball sans que Vlad connaisse une saison miraculeuse. Alors, je trouve que c'est que lorsque tu parles de jouer en équipe, là, c'est un bel exemple qu'on voit présentement là, du côté des Jays.
Ouais, ben, en fin de semaine, on a eu droit à des performances de nouveaux venus. Marc Loperfido, au premier match, produit un point dans une victoire de 3-2, un point évidemment important. Lazaro Estrada, on n'avait aucune idée c'était qui. Quatre manches solides samedi, un point. Braden Fisher qui suit avec deux manches, pas de points en prolongation. Marc, il faut le faire. Là. Il y a un coureur au deuxième quand ça commence. Tu sais, on parle pas beaucoup de ce gars-là, mais il semble se plaire dans un rôle dans lequel on lui donne des responsabilités.
Écoute, puis je sais qu'on a, on a souvent critiqué John Schneider à bien des égards. Mais là, personne n'en parle, hein? As-tu remarqué là, que personne ne parle du géant? Et pourtant, c'est le même gars, là.
Oui.
Et moi, ça me dit une chose, c'est que peut-être faut-il donner un peu de temps à des gars comme ça de s'installer, de commettre des erreurs, de prendre des drôles de décisions. Puis là, je sais que c'est un comité avant le match, tout ça, mais ça reste que quand le match commence, Schneider prend ses responsabilités, puis... je veux dire, les décisions, tu sais, je veux dire, sont meilleures. Je trouve que c'est sûr que tu contrôles pas ce que le releveur va te donner, là. Mais moi, j'aime ce que je vois présentement. Les gars semblent vouloir, répondre à certaines décisions. Puis, on critique souvent, mais lorsque ça va bien, on a le droit aussi de dire qu'il en fait des bonnes choses. Et il fait partie, ouais. Alain, des raisons aussi pour lesquelles les Jays sont dans une bonne séquence. Mais tu le sens, Alain, quand tu es un joueur qui arrive dans une équipe, tu le sens si ça va bien, tu le sens si ça va mal. Et lorsque tu arrives, puis tu vois tout le monde qui a le sourire dans le visage, puis tu viens d'en gagner 3, 4, 5 de suite, peu importe au moment où tu es rappelé, tu ne veux pas être celui qui brise ça, là. Tu comprends? Fait que t'embarques. Alors que si tu arrives dans une mauvaise séquence, là aussi tu le sens, toi aussi tu t'ajoutes de la pression, puis en t'ajoutant de la pression, ben tu sors évidemment de ta zone de confort, puis on tombe un peu aussi dans les mauvais plis. Alors, l'importance de la synergie dans une équipe, là, on la voit actuellement, alors que tous les gars qui arrivent, qui sont rappelés, tombent embarqués dans le processus, puis ça fonctionne. Et ça durera pas, c'est impossible, là, l'histoire nous dit que ça durera pas éternellement, mais ça reste que pendant que tu le vis, ben c'est plus dur après ça de tomber dans un passage à vide parce que là, tu comprends les choses que tu dois faire. C'est vraiment intéressant ce qui se passe. Là.
On va parler des Yankees, Marc. Là, évidemment, tu es à New York, donc ça chiale. Une des cibles préférées des critiques, c'est Anthony Volpe.
Ouais.
Je trouve ça un peu injuste. C'est vrai qu'il a pris quelques mauvaises décisions en défense. C'est un fait. On le blâme aussi pour ne pas être à la hauteur lors des moments importants. J'ai vérifié les chiffres, Marc. On a peut-être un point, parce que si son rendement global à l'attaque est à peu près à la moyenne du baseball majeur, là on parle du MPP, c'est un fait, tu regardes, et c'est le joueur qui a coûté le plus cher au bâton par ses présences. Tu comprends le fameux win probability added? C'est le dernier de l'équipe. Judge est en avant de tout le monde par 1 000 et est suivi de Grisham et de Chisholm. Donc, c'est pas surprenant là, quand tu regardes la fiche offensive de ces trois joueurs du côté de Volpe. Sauf que ce serait une erreur, Marc, de passer à d'autres choses dans le cas de Volpe. C'est un gars qui est au-dessus de la moyenne, il faut bien dire. Les Yankees en défense, selon les statistiques avancées qu'on a, ne sont pas si mauvais. On s'est amélioré évidemment au champ centre. C'est un gros facteur. Mais, Marc, je compare ça. Tu as des problèmes au hockey avec tes marqueurs, puis tu mets à critiquer des gars de quatrième trio.
c'est pas eux autres que vient la responsabilité là, de faire marquer des points importants. Là, ouais. Ultimement. Là.
Tu gagnes en équipe, tu perds en équipe, Alain. Ça, c'est facile. C'est trop facile de pointer un joueur dans, à ce moment-là. Mais moi, je trouve que c'est un gars qu'on lui a donné trop de responsabilités en attaque. Joueur d'arrêt-court, c'est un gars qui devrait, évidemment, en premier lieu, attraper la balle, vraiment faire les choses en défense. Fait que si tu l'insères un petit peu plus dans le bas de la formation, donc, mais tu sais, tu le regardes, il a commencé dans le haut, il a commencé après ça, tu sais, on le laisse dans, même dans le cœur, la formation. Moi, je descendrais Volpi, là. Laisse faire la pression que tu te donnes en attaque. Mais là, frapper 8 ou 9, pas de problème. Parfois, ça va alléger un peu l'anxiété qui doit se créer lui-même en étant joueur d'arrêt-court des Yankees de New York. Mais c'est vrai de mentionner qu'écoute, il est loin d'être le seul. Là. J'ai regardé une couple de releveurs, Alain, qui Weaver n'a pas été parfait nécessairement aussi. On l'a utilisé en 7e, 8e manche. Fait que tu sais, c'est trop facile. Lorsque tu as une série de défaites, Alain, c'est sûr que c'est pas un gars. Là. C'est certain que c'est pas un gars. C'est tout le monde qui doit se regarder. Incluant Judge, même si Judge fait tout ce qu'il peut, il fait partie de l'équipe. Alors, faut. C'est important que les joueurs se regardent un peu dans le miroir. Mais c'est vrai que les partisans sont vite sur la gâchette. Puis on n'a pas accepté le balayage des Blue Jays de Toronto, là, chez les partisans des Yankees de New York. Alors, ça fait partie, malheureusement, de jouer à New York. Quand ça va bien, ça va très bien. Puis t'es un héros. Mais quand ça va pas bien, c'est sûr que les critiques sont sévères, là.
Oui, la relève, effectivement, et tu parlais de Weaver, depuis son retour au jeu, là, n'est pas du tout le même lanceur. Est-ce qu'on l'a ramené trop tôt? C'est pas impossible. Et là, on vient de perdre Clark Schmidt. Louis Gill, c'est pas demain encore son retour. Ça va prendre encore quelques semaines. Bref, c'est ça. C'est beaucoup sur les épaules. Oui, c'est beaucoup sur les épaules de Rodon et de Fried. Marc, on va parler des Nationals de Washington. Toi, t'es pas surpris. Tu l'avais même presque prédit dans le cas de Dave Martinez. Mike Rizzo va partir. Rizzo, qui avait été une des premières embauches du groupe Lerner lorsqu'on s'est porté acquéreur de l'équipe. Donc, il était là depuis un petit bout. Mike Rizzo a connu quand même certains succès, Marc. Dans l'ensemble, il y a deux façons de voir les choses. Il y a du talent dans cette équipe-là. Quelle est la responsabilité qui incombe à Rizzo ou Martinez? Bref, on a décidé vraiment de tourner la page chez les Nationals de Washington.
Oui, en fait, pour Dave Martinez, je suis moins surpris. Ça m'attriste parce qu'on sait que c'est un ancien expo, mais surtout, c'est un sacré bon gars, Dave Martinez. Fait que c'est plate de voir ça, mais ça faisait quoi, 7 ans et demi, là, finalement, qu'il était à la barre de l'équipe. Il a gagné une série mondiale, il a fait de très bonnes choses. Mais 71 victoires l'année dernière du côté des Nationals, je pense que les objectifs, c'était d'arriver à 75, 65. C'était approché de jouer 500 cette année. Puis là, on s'est creusé un trou. Là, au moment où on se parle, les Nationals ont 37 victoires.
Ouais.
Alors, à un moment donné, c'est le cas classique. Là, hein, c'est qui paye. C'est le gérant. Moi, ce qui m'a surpris, c'est Rizzo. Je peux comprendre que ça fait longtemps qu'il est là, c'est clair. Mais c'est quand même lui qui a mis une équipe sur le terrain. Moi, je pense que le potentiel est supérieur à ce que le rendement nous le démontre présentement. Mais ça reste qu'à un moment donné, j'imagine qu'il fallait un vent nouveau. Je sais que Rizzo était très, très près aussi de la haute direction des propriétaires. Alors, ça n'a pas dû être un geste facile à poser. Mais il y a bel avenir quand même. Tu regardes le cœur, le noyau de cette équipe, il y a des choses fort intéressantes, mais j'imagine que là qu'on avait perdu patience, on voulait des résultats un peu plus rapidement. Et là, ça va être un vent nouveau du côté des anciens expos. Ça fait mal au cœur de dire ça, mais c'est ça. C'est ça. Moi, ce que j'avais dit, Alain, là, il y a quelques semaines, c'est que Martinez pouvait être dans le trouble. Snitker pouvait être dans le trouble avec les Braves, juste par le fait que les attentes étaient tellement élevées. Et c'est finalement Martinez là, qui a malheureusement écopé à ce niveau-là.
Oui, écoute, on avait quelques jeunes au Monticule qui déçoivent un peu, je pense à Irvin et Parker de façon spécifique. Josiah Gray, c'est sûr que ça fait mal son absence. On se fiait sur lui pour former un bon duo de 1-2 avec Mackenzie Gore, qui connaît une très, très bonne saison en passant. Et il y en a quelques-uns qui marquent cette année parmi les jeunes à l'attaque. Kéber Ruiz, Marc, je pense que son indiscipline au bâton est en train de le rejoindre. Et, je parle souvent du fait qu'on n'a pas beaucoup de buts sur balle. Ça peut faire un temps, mais garde un MPP en bas de 600, puis Dylan Cruz qui n'est pas au niveau attendu, ça c'est clair. Un gros choix de première ronde, Marc. Ça aussi. Marc, dans le cas de Cruz, il n'a même pas 25 ans encore. Mais regarde, les attentes étaient très, très élevées à son endroit. Là.
Ben, c'est sûr, quand tu es un choix de première ronde, ouais. Je veux dire, c'était un frappeur. C'était ta qualité, là. C'était un frappeur. Ouais. C'est là que tu vois que c'était pas une science exacte. Hein. T'as beau être un choix élevé, c'est pas toujours facile de s'adapter, mais le potentiel est là encore. T'as raison de mentionner, là, malgré son âge. Alors, il y aura un vent nouveau. Est-ce que les joueurs sauront répondre à ça? Ben, on aura la réponse justement dans la deuxième moitié de saison.
Oui, on aura d'ailleurs une idée du gérant qui va terminer la saison. C'est par intérim. Il y a également là, le poste de directeur général qui a été donné à Mike DeBartolo, qui était l'adjoint de Mike Rizzo, sur une base intérimaire. Est-ce que c'est lui éventuellement qui va hériter du poste, Marc? C'est un autre de la nouvelle génération des directeurs généraux, c'est-à-dire qui arrive de la Ivy League, arrive de la Columbia Business School of Administration, donc il est allé à l'université de Tufts auparavant. C'est un gars qui n'a pas joué. C'est la tendance actuelle, Marc. À Boston, on avait Craig Breslow, Marc, qui avait les deux. Il avait joué et c'était un gars de la Ivy League. Est-ce que c'est ça qui serait l'idéal? Toujours est-il que, c'est la tendance actuelle, Marc.
T'as raison, mais je regarde, Buster Posey, là, qui a pris toutes les responsabilités, mais ça reste un ancien joueur. Alors, je pense encore que la combinaison des deux serait probablement la meilleure équipe. Un gars, tu sais, un gars qui a joué, puis un gars qui arrive avec ses connaissances, puis on essaie de mettre ça ensemble. Parce que, écoute, Alain, les directions baseball, là, il n'y a pas si longtemps, c'était une couple de gars seulement, là. Et aujourd'hui, là, c'est une équipe complète, là. Des assistants directeurs gérants, là, t'en as 4-5. Fait que j'ai l'impression qu'on va suivre la tendance, on va s'entourer d'une équipe autour d'une personne, évidemment, mais moi, je suis pas certain que d'avoir un ancien joueur seulement ou un gars qui est plus axé sur la business, qui n'a jamais joué, je pense que c'est la solution. Le côté hybride, oui, là, je trouverais ça acceptable. Parce que pour vivre avec les deux, Alain, tu ne peux pas vivre juste avec un.
Oui, c'est un gars qui est là depuis une dizaine d'années avec les Nationals de Washington, connaît le tabac, connaît l'organisation. On verra quelle sera la décision éventuellement à long terme pour les Nationals. La question de la semaine est présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. C'est fort simple. Les Blue Jays, premier dans l'Est en ce moment. On joue contre les White Sox en début de semaine. Il n'y a pas de raison qu'on arrive au match des étoiles sans être premier. Donc, la question, est-ce qu'ils peuvent tenir le coup à long terme? Je vous invite à envoyer vos commentaires sur notre page Facebook, facebook.com/compte-complet-balado, ou aller directement sur notre site internet compte-complet.com.
Amateurs de baseball, viens vivre l'expérience des Capitales au Stade Canac. Du baseball professionnel, une ambiance électrique, le tout dans un stade de baseball mythique au cœur de Québec. Billets sur capitaldequebec.com.
Alain, c'est le moment de souligner notre partenaire Plan de match qu'on remercie grandement, évidemment. Plan de match, c'est boutique de baseball, cage de frappeur, boutique en ligne, deux endroits physiques, Boucherville, qui est la boutique originale, cage de frappeur qui est à Boucherville, cours privé également. C'est la mi-saison, il y a aussi quelques rabais intéressants, soit dit en passant, et aussi une boutique à Jonquière. Et si d'ailleurs vous voulez vous procurer, par exemple, une casquette de compte complet, ben il y en a à la boutique en ligne de Plan de match. Alors, on les remercie. Les Capitales de Québec aussi, qui sont grands partenaires de notre balado compte complet, on les remercie grandement. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus de détails sur notre balado, ben visitez notre site internet qui est le www.comptecomplet.com.
Marc, on va passer cette deuxième partie du balado sur un point qui a retenu ton attention. Vous en avez parlé dans votre balado avec les receveurs qui seraient disponibles ce vendredi. Le but sur balle intentionnel, est-ce que c'est une plaie? Première des choses, on va commencer par ça, parce que vous en avez parlé. Il y a plusieurs années, il y a des idées qui ont été avancées, vous en avez discuté. Mais avant d'aller là, est-ce que tu considères que cette stratégie est une plaie? dans le baseball.
Ben, écoute, Alain, là, mets-toi dans la peau, exemple, d'un partisan qui prend sa voiture, s'en va, ben, par exemple, soit à New York, soit à Boston, soit à Toronto, tu sais, qui décide, là, je vais dépenser avec ma famille, je vais aller voir Aaron Judge. Je vais aller voir Vladimir Guerrero Jr., je vais aller voir les meilleurs frappeurs, les Juan Soto, des gars de main. Là, t'arrives, je sais pas, Aaron Judge, il y a 5 présences dans le match, mais 3 buts sur balle intentionnels. Là, tu te dis, voyons, là, je viens le voir frapper, puis non seulement, bon, les buts sur balle intentionnels, maintenant, c'est un automatisme, il s'en va au premier but, mais, fait que, côté partisan, je trouve que c'est rendu plate. Puis, bon, là, mets-toi du côté baseball, stratégiquement, on blâmera, bon, tu sais, il n'y a pas un gérant qui a été blâmé à l'époque lorsqu'on a tous ses buts sur balle à Barry Bonds, par exemple, ou même, à la limite, à Aaron Judge. Tu dis, écoute, si on n'a personne derrière lui pour le protéger, on lui donne un but sur balle, puis on va gagner le match. On est là pour gagner. Fait que toi, je comprends ça. Mais à un moment donné, est-ce que ça devient trop facile? Que ça devient trop facile de dire, bon, alors comment on pourrait contrer ça? Puis c'est un peu, puis Alain, je vais rentrer un petit peu aussi, puis on va en reparler après, mais un peu comme le frappeur atteint. C'est un autre dossier, mais on va en parler juste après.
Ouais, ouais.
Alors, dans notre discussion, il y avait Olivier Lépine dans le compte complet extra et Ozoé Pelé. Je sais que les idées qu'ils ont lancées, bon, tu l'as dit, Alain, il y a une certaine époque, il y a eu des grandes réflexions, il y a des gens qui ont pensé, mais Ozoé, on jasait. Ma question avec eux avait été, à un moment donné, est-ce que vous êtes pour d'avoir un joueur en défense qui ne frappe pas? Donc, d'avoir un deuxième frappeur de choix. Ça, on en a déjà parlé, Alain. Et là, ben, les discussions se sont enchaînées. Et là, Ozoé dit, mais pourquoi pas le but sur balle intentionnel au lieu que ça soit un but, donc ça va au premier but, c'est qu'on l'envoie au deuxième. En l'envoyant au deuxième, ben là, il y a un risque. Parce que là, tu places tout de suite en position de marquer.
Oui.
Et là, ça va peut-être, la stratégie change à ce moment-là. C'est pas impossible qu'il y en ait, mais là, la stratégie change complètement. Alors, peut-être que ça va forcer les équipes à dire, ben, finalement, je vais l'affronter Aaron Judge. Je vais l'affronter, Vladimir Guerrero Jr. Parce que, dans le fond, Alain, ce qu'on veut voir, c'est qu'on veut voir ces gars-là frapper. Comme on veut voir les meilleurs lanceurs retirer les frappeurs. On veut voir des beaux jeux en défense. On veut pas voir les buts sur balle intentionnels, qui est à peu près, bon, c'est pas très sexy, là, on s'entend. Mm-hmm. Alors là, ben, est-ce qu'on force les équipes à dire, regarde, je te le permets, le but sur balle intentionnel, mais c'est 2 buts. Moi, je n'ai pas trouvé l'idée folle et on a prolongé ça au frappeur atteint. Alors, on est tanné de voir les gars lancer 99 000 à l'heure à l'intérieur puis pas se gêner puis là, atteindre des Ramirez ou des Guerrero comme on a vu la semaine dernière du côté des Jays et des Guardians. Puis là, ben, depuis ce temps-là, d'ailleurs, Ramirez frappe à peu près plus. Est-ce qu'il est affecté par le fait qu'il avait été atteint à un moment donné? Bon, les risques de blessure. Alors, même si tu ne fais pas exprès, si tu atteins le frappeur, ça en va aux deux. Mm-hmm. Est-ce que ça va inciter les lanceurs à dire, ben là, un instant, là, je peux plus, il va falloir que je contrôle davantage mes lancers. Bon, là, c'est un petit peu plus, il faudrait que ce soit un petit peu plus à l'étude, mais j'ai quand même pas trouvé des idées si folles que ça. J'aime celle du but sur balle intentionnel. Ça, je trouve que c'est un petit, c'est quelque chose qui devient intéressant. Ben, il faudrait voir les causes. Est-ce que, puis carrément, tu t'en vas au deuxième, là. Fait que si t'as des coureurs, t'as un coureur au 2 puis au 3, là, puis Aaron Judge s'en vient au bâton, là. C'est un automatisme, le but sur balle intentionnel. Mais là, non. Tu donnes, là, ben, il y a déjà un point qui va se marquer.
Mm-hmm.
Je trouve que c'est des idées qui pourraient être innovantes. Je trouve que ça pourrait être avant-gardiste. Je trouve ça intéressant. Mais je vais attendre encore de l'analyser. À chaque fois qu'on verra un but sur balle intentionnel, Alain, on regardera voir est-ce qu'on l'aurait fait même s'il y avait la règle avait été de 2 buts. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça m'a allumé quelque chose, cette proposition-là de Ozoé Pelé.
Bon, Max, tu seras pas tellement surpris, je te dis que j'ai un petit côté nostalgique, un peu classique. Donc, l'idée me flatte dans le mauvais sens du poil. On va dire les choses comme il faut. Il y a plusieurs raisons pour ça. Un, si tu me demandes sur le plan stratégique, plus souvent qu'autrement, c'est contre-productif. C'est pas compliqué. Là, tu te fais mal en donnant le but sur balle intentionnel.
Mais ça arrive quand même régulièrement.
Pardon?
Mais ça arrive quand même régulièrement.
Ça arrive. Il y a des équipes qui l'utilisent presque plus. Marc, je regardais juste pour voir les Astros de Houston, Marc. Puis on en donne pratiquement pas de but sur balle intentionnel parce que tu as des conséquences qui sont pas nécessairement immédiates. On le dit souvent, tu pousses tout ça. Et, tu sais, on dit souvent que le baseball, c'est le plus individuel des sports d'équipe. Ben, cet aspect-là, en le gardant au premier, demeure. Il faut que les gars... Il ne faut pas que ce soit juste Judge. Il faut que les autres aussi profitent de ce que tu donnes à Judge, que tu donnes. OK, tu t'en vas au premier, ben l'autre en arrière, il a le droit, lui aussi, de produire. Je comprends du point de vue du spectateur qui paie son billet pour aller voir Aaron Judge. Je le comprends. Mais tu regardes aussi un match de baseball. effectivement, bon, mettons qu'il y a 50 000 spectateurs. Il y a un pourcentage qui sont là pour voir Judge. Ça, je le comprends. Quel est le pourcentage qui sont là pour voir des stratégies de baseball et d'autres qui sont là juste passer un bel après-midi? On pourra en débattre de tout ça. Mais moi, j'aime ça voir, évidemment, ce qui se passe. Tu donnes le but sur balle. OK, est-ce que tu vas payer le prix, par contre? Donc, il y a cet aspect-là, Marc, moi, qui m'intéresse. Et comme je le dis, plus souvent qu'autrement, c'est contre-productif. Tu donnes le but sur balle, Marc. Moi, j'ai toujours dit, dans les 6 premières manches, il y a des bonnes chances que ça vienne t'exploser en plein visage. Marc, dans nos reportages, on le dit souvent, lorsque tu donnes un but sur balle, c'est correct, mais tu vas peut-être l'affronter plus tard dans le match à un moment où tu n'auras pas le choix de lui lancer quelque chose de bon. Donc, affronte-le quand tu es en 3e, 4e manche. Donc, il y a un côté stratégique là-dedans, Marc, et côté équipe. Je pense qu'il faut continuer d'avoir, même si c'est frustrant d'un côté, puis tu as raison là-dessus, mais regarde, je pense qu'il de ce côté-là, ce serait extrême de donner le deuxième but tout de suite sur un but sur balle intentionnel, à mon avis.
Écoute, moi, je compare ça. Rappelle-toi la règle des 3 frappeurs.
Oui. Oui.
Pour les releveurs. Là, on disait, là, ça a été, on va enlever la stratégie, notre expert gaucher n'existera presque plus. On s'est adapté. Oui. Puis, et tu l'as mentionné, c'est pas qu'il y en a une tonne de buts sur balle intentionnels, c'est juste que ça arrive toujours au meilleur, évidemment, au meilleur frappeur que tu veux voir. Puis tu veux voir un releveur être forcé à affronter un Aaron Judge, par exemple, là, tu sais, dans une situation coureur au deuxième et troisième. En tout cas, fait que je suis pas parfaitement d'accord encore, tu sais, mais je trouve que ça amène une discussion qui est vraiment intéressante.
Ouais.
Puis puis comme le frappeur atteint, c'est pas inintéressant du tout de dire si t'atteins un frappeur, c'est 2 buts, si tu donnes un but sur intentionnel, c'est 2 buts. Mais sachant ça, Alain, on verra dans nos prochains reportages à RDS, lorsqu'un frappeur sera atteint, lorsqu'on aura un but sur balle intentionnel, on en discutera, on verra la stratégie, est-ce que c'est la bonne. Parce que tu as raison, ce que ça expose, c'est que le but sur balle intentionnel, tu l'as dit, là, il y a des conséquences plus tard dans le match, parce que là, on retourne plus vite, puis les meilleurs reviennent plus vite, puis... c'est des lancers peut-être additionnels juste par le fait que là, tu affrontes un gars après avec un coureur sur les buts. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a des conséquences à tout ça. Mais je pense le baseball a évolué au cours des dernières années. Il y a eu des très bonnes choses, des moins bonnes aussi. Mais ça reste que à la fin de la journée, je pense quand même que tes décisions doivent être prises pour le spectacle. C'est du spectacle, le sport. C'est du spectacle, le baseball. Alors, prenons des décisions pour pas... Évidemment, tu veux pas complètement modifier le sport, là, pour pas rendre ça... Bon, mais ça reste que... Moi, les décisions, ça serait surtout pour dire comment je peux exploiter mes meilleurs jooires encore plus. Ouais. Comment je peux mettre mes joueurs mes meilleurs joueurs dans des situations où ils peuvent exceller, tu sais, ou qui peuvent donner un spectacle. Alors, écoute, je trouve ça le fun... Mais c'est ça, matière à réflexion au cours des prochaines semaines.
Oui, et je vais juste finir, Marc, et même si j'étais d'accord, comment t'appliques ça? Parce que, regarde, admettons là, que la règle existe présentement, on l'applique. Tu as Aaron Judge, puis tu vois l'instructeur des lanceurs que ça va au monticule, puis tu sais ce qu'il va lui dire. Donne-lui rien de bon. Comment tu évalues que c'est un but sur balle intentionnel, non intentionnel?
Tu lances, mais il faut que tu lances. Là, mais regarde, c'est pour ça que la fameuse règle, la fameuse règle du frappeur atteint vient aussi s'appliquer parce que là, tu te dis, ben, donne-y rien de bon, mais atteins-le pas non plus.
Oui, mais tu sais, t'arrives avec un lanceur, bon, lance-tu 4 balles rapides à la hauteur des yeux. Tu t'en vas au premier. Non, c'est pas intentionnel, je voulais en lancer une rapide en plein centre. Comment tu fais pour déterminer ça,
je veux dire. Ben non, mais le but sur balle intentionnel, il est facile, Alain, à cette heure, c'est 4 lancés, je veux dire, tu dis 4. Alors là, tu le forces à lancer. Oui, mais Alain, tu le forces à lancer. Peut-être qu'il peut en bondir une, ça va faire avancer les coureurs. Si vraiment il lance trop haut, c'est dangereux. Écoute, je te le dis, là, c'est pas parfait. Je fais juste dire que c'est matière peut-être à réflexion, alors que tu es obligé de le forcer. On va tous s'entendre sur une chose, Alain? C'est pas les quatre balles lancées à un but sur balle intentionnel qui ont accéléré les matchs, là.
Non, c'est bon, négligeable.
D'ailleurs, la décision était là-dessus. On dit on perd trop de temps. Pourtant, je me rappelle Tony Peña qui était debout puis qui faisait le signe. Puis finalement, on a lancé une prise pour retirer un gars. Tu sais, je veux dire, il y avait aussi une stratégie derrière ça. Ouais. Elle a disparu. Mais là, c'est juste qu'il faudrait forcer. Si tu veux donner un but sur balle semi-intentionnel, ben là, faut que au moins tu l'affrontes. Ben, si tu l'affrontes, ben, t'as 4 lancers à faire. 4 lancers, il faut que le receveur attrape la balle, puis t'assures que c'est pas trop près de la zone. Puis là, ben, tu peux voir. Moi, je me souviens d'un Manny Ramirez qui avait tiré les bras pour frapper un long ballon sacrifice alors qu'on lui donnait un but sur balle intentionnel. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je trouvais ça plus excitant que juste de dire, OK, 4 balles, tu t'en vas. Puis là, il se passe plus rien. Ah, les gars, c'est ça.
Ouais, l'application, Marc, parce qu'il n'y a personne qui donnerait un but sur balle intentionnel à ce moment-là, puisque tu vas voir, ben, c'est des lanceurs qui vont rater la zone des prises intentionnellement. Puis regarde, va-t'en premier. Moi, c'est. Je suis pas sûr qu'on serait gagnant, même si l'idée a du mérite. Je l'accorde. Je te dis juste que sur l'application, ce serait extrêmement difficile.
Ça forcerait effectivement le gars à effectuer 4 lancers, puis c'est à lui d'avoir le contrôle d'effectuer 4 lancers qui sont pas près de la zone des prises.
Ouais.
Mais ça donne peut-être une chance quand même à des gars de s'élancer. Mais ton point était très, très valide, très, très bon également. C'est pour ça que c'est le fun d'en discuter.
Ouais. Écoute, pour le frappeur atteint, ça, on en avait parlé, je pense, l'année passée, Marc. Moi, la règle que j'aimerais voir appliquée, c'est si tu atteins dangereusement un frappeur, que ce soit intentionnel ou non, à la tête, je parle au-dessus des épaules, là, ben regarde, il y a une règle au handball où quand tu frappes un gardien au visage, dans un lancer où t'es pas sous pression, ben t'es pénalisé. Je pense que on pourrait faire la même chose au baseball. Si t'as pas assez de contrôle pour éviter de frapper à la tête quelqu'un, ben regarde, tu sors du match. Moi, j'irais jusque-là. C'est extrême, tu vas me dire. Mais c'est parce qu'à un moment donné, le frappeur a le droit de gagner sa vie sans avoir peur d'y laisser sa peau. Là.
Ben, en tout cas, où je suis d'accord avec toi, Alain, c'est qu'il faut s'assurer que les lanceurs puissent avoir un certain contrôle. Tu sais, je veux dire, et j'ai écouté les propos de Whit Merrifield. Qui est lui récemment aussi officiellement retraité. Ouais. Et Merrifield, on lui a posé la question, qu'est-ce que tu ne manqueras pas d'être un joueur? Et c'est exactement ce qu'il a dit. Il dit, moi, je ne manquerai pas de m'installer dans le rectangle, puis sachant que le gars lance 99 000 à l'heure, il n'est pas trop sûr où ça s'en va. D'ailleurs, une de ses dernières présences, sinon sa dernière présence dans le baseball majeur, il a été atteint à la tête, Whit Merrifield.
Oui, il était pas content.
Alors, il faut effectivement, moi, tu sais, je suis pour, évidemment, la vélocité. Là, je trouve ça fantastique de voir des gars lancer à de telles forces. Mais il faut justement les forcer à être capables de contrôler ce qu'ils font. Et c'est là là, tu vas me dire, mais là, les frappeurs ont des armures. Ça a l'air des chevaliers au kiff pratiquement lorsqu'ils se présentent au bâton. Mais c'est parce que justement, là, c'est que les lanceurs disent, mais là, les frappeurs ont plus peur. Ils sont tellement protégés qu'ils vont rester là. Ben oui, mais c'est... Le jeu, c'est de déstabiliser, c'est de désynchroniser le frappeur. C'est pas nécessairement de l'atteindre avec des vitesses folles. Alors, ça aussi, il y a un petit débat intéressant à ce niveau-là.
Oui. Bon, Marc, on pourra en discuter, évidemment, puis toutes les opinions se valent quand elles sont bien appuyées par... et le baseball va continuer d'évoluer. On va voir quelles sont les décisions qui seront prises au cours des prochaines années à cet effet. La carte de baseball de la semaine, c'est une présentation de cartes-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 60 000 articles en vente sur eBay. Une cote parfaite de satisfaction à 100%. Et là, notre dévolu, c'est pas un joueur... C'est un propriétaire, dirigeant un peu excentrique, Bill Veeck, qui est au Temple de la Renommée. Et c'est une carte dont la série est toujours vivante parce qu'il y a toujours des membres du Temple de la Renommée qui s'ajoutent. On pense à Dave Parker, par exemple. Et cette carte postale du National Baseball Hall of Fame and Museum. C'est le temple de la renommée du baseball. Le Cooperstown date de 1991. Je vous précise que pour ceux qui écoutent la version audio, la carte va être disponible sur notre page Facebook à compter de mardi à midi. Donc, c'est tous les intronisés du baseball qui font partie de cette collection. Et Bill Veeck, Marc, il a commencé, lui, dans le baseball mineur. Son père était déjà impliqué avec les Cubs de Chicago. Puis lui, ben, il a volé de ses propres ailes à un moment donné. Et dans les années 40, avait eu l'idée, semble-t-il, c'est pas confirmé tout à fait, mais connaissant le bonhomme, c'était un des premiers à songer, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à pacter son équipe de joueurs des Ligues des Noirs. J'imagine s'il l'avait fait, je m'excuse, mais il aurait fini premier. C'est pas compliqué, là. Il aurait vraiment fini premier à ce moment-là. Mais Marc, ce qui est documenté davantage, c'est la réticence du commissaire du baseball, Judge Landis, là, d'avoir des Noirs. D'ailleurs, Jackie Robinson est arrivé après le décès de Judge Landis et après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, bon, qu'est-ce qu'il a créé comme innovation? Les feux d'artifice après des coups de circuit, ça, c'est lui. Le nain au bâton en 1951, c'est lui. Les uniformes en satin, je sais pas si tu as déjà vu ça, Marc, avec les Browns de Saint-Louis, c'est lui. Les White Sox de Chicago qui ont joué en culotte courte, c'est lui.
Ouais.
Écoute, et il n'y a pas juste ça qu'il a fait. Y a, également, sur le plan fiscal, Marc a permis aux propriétaires de gagner beaucoup d'argent. Là, ça me prendrait un comptable pour expliquer tout ça. Mais a réussi à amortir les salaires des joueurs dans les rapports d'impôts. Et c'était un des premiers à le faire. Tu comprends que les autres propriétaires ont suivi par la suite, comme on peut amortir des équipements, par exemple, lorsqu'on est en agriculture, un milieu que je connais peut-être un peu. Donc, lui a réussi à le faire avec les joueurs. Et c'est aussi le père de Mike Veeck. Mike Veeck s'est fait des dents avec les White Sox de Chicago, avec son père, et qui était responsable d'une des plus célèbres promotions des années 70, c'est-à-dire, oui, le Disco Demolition Night. alors qu'on avait fait exploser des disques sur les terrains, des disques disco sur le terrain. Le terrain étant impraticable pour le deuxième match, les White Sox l'ont perdu par forfait. Et ça avait créé une émeute, Marc, sur le terrain. Il y a des images que vous pouvez retrouver sur YouTube. Ça a été documenté. Ah, ouais. On en a parlé à plusieurs reprises, Marc, de cet événement. C'était une foule qui était plutôt inhabituelle. Pour avoir parlé à des gens qui étaient sur place, Marc. C'est ça, il y avait des odeurs inhabituelles aussi qui émanaient des estrades. Et Marc, et je me rappelle encore avoir lu ce que Bill Veeck avait dit à son fils le lendemain était rentré penaud. Il dit, j'imagine que t'es pas content, et la réaction de Bill Veeck était absolument succulente. Il dit, voyons donc, il dit, c'est parfaitement réussi, tout le monde parle de nous ce matin. Donc dans un certain sens, il n'y avait pas complètement tort. Donc, notre carte de la semaine, un innovateur dans le monde du baseball, même s'il n'était pas toujours apprécié de ses collègues propriétaires, beaucoup plus conservateurs que Bill Veeck pouvait l'être, mais je pense qu'il a quand même marqué le monde du baseball à sa façon.
Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball.
Nous vous invitons dans ce segment à la lecture pour les jeunes avec les livres de notre ami Bob McDuff. Vous allez sur le site internet www.baseballbob.ca avec la collection de ses livres pour jeunes avec le thème principal, le baseball. Je vous rappelle qu'au cours des dernières semaines, il y a eu un quatrième livre de cette collection qui est sorti, Baseball Bob et le chant des tournesols. Si vous allez à Trois-Rivières, vous pouvez également vous procurer ses livres. Bob qui est impliqué avec les Aigles là-bas, et il y a un temple de la renommée du baseball à Trois-Rivières. C'est une ville où le baseball, son histoire est très, très riche. Notre profil, Marc, s'est démarqué au cours de la dernière semaine. Michael Bush des Cubs de Chicago. Il avait été un choix de première ronde des Dodgers de Los Angeles. Pas de place pour lui, par contre, donc on l'a échangé aux Cubs. C'est un joueur de troisième but à l'origine. Marc, il a frappé partout où il est allé. Son MPP, globalement, dans le baseball mineur, c'est au-dessus de 900. Donc, on l'a échangé aux Cubs. Et Marc, une transition qui s'est faite en douceur. C'est devenu un des très bons premiers buts défensifs dans le baseball majeur. Puis là, vient de connaître un match de trois coups de circuit. Je ne sais pas si les Cubs avaient prévu ça, mais ça a permis en plus d'avoir Matt Bush au troisième but. Donc, on a peut-être réglé, dans l'espace de deux saisons, nos deux positions de coin de losange, comme on disait à l'époque.
Bon, écoute, c'est sûr que je sais pas si, quelles étaient les attentes, mais je suis pas mal sûr qu'il les a dépassées. Écoute, en 2025, Alain, il a un MPP à 9,50 là, présentement et un OPS ou un MPP plus à 170. Alors, c'est pas juste son coup de bâton, c'est son jeu en défense aussi, tu l'as dit, qui excelle également. Écoute, il a juste 25 ans, hein? Alors, c'est tout un joueur d'avenir qu'on a. C'est pas un gars qui a un grand gabarit. On parle de 6 pieds, 200 livres. Mais, je veux dire, il est fait fort. J'adore sa manière lorsqu'il se présente au bâton, sa manière de se comporter, sa discipline. Il y a plein de belles choses, en tout cas, Michael Bush. Et ça, c'est le genre de transaction que les Dodgers... Bon, je dirais pas on va regretter, mais pense pas qu'on s'attendait à un tel développement de la part de Michael Bush.
C'est exceptionnel, Marc, ce qu'il a accompli. Je sais qu'il y a encore quelques... Oui, les Dodgers ont encore quelques prospects de premier plan dans le réseau de filiales. Ce sont des joueurs de position principalement, alors qu'on aurait besoin de lanceurs présentement. Ouais. Marc, on en a une tonne sur la liste des joueurs blessés. On peut comprendre qu'on n'a pas jeté notre dévolu là-dessus. Mais quand même, écoute, chapeau à Michael Bush, les beaux cadeaux aux Cubs de Chicago. Marc, on va parler de certains retours. Le plus important, probablement, celui de Brandon Woodruff avec les Brewers de Milwaukee. C'est que les Brewers vont bien. On a un très bon rendement de la part des lanceurs partants des Brewers de Milwaukee, de façon peut-être un peu surprenante. Il y a quelques belles surprises là-bas. Tout ça mené par notre général, encore une fois, c'est Freddy Peralta, qui mène la Ligue nationale pour le nombre de victoires. Et regarde, Churio n'a pas la même saison que l'année passée. Ceci étant dit, regarde, on fait ce qu'il faut pour gagner, puis c'est un rendement, écoute, bien au-delà de ce à quoi on s'attendait. Puis Woodruff va venir solidifier ce qu'on a déjà.
Oui, écoute, déjà 50 victoires pour Milwaukee. Moi, je voyais pas ça du tout cette année. Pat Murphy, chapeau à la barre de l'équipe, sa deuxième année. Encore une fois, un travail remarquable, mais Alain, c'est comme si tu ajoutes un lanceur de premier plan à ce statut de la saison. Là. Tu sais, c'est comme, je veux dire, c'est extraordinaire pour une organisation. Ouais. Puis moi, je m'attendais même pas à ce qu'il lance tant que ça. Écoute, il a lancé 6 manches à son premier départ. Il était très, très bon. Puis là, ben, les Brewers, moi, je m'attendais pas à une saison de la sorte. Puis là, on s'était dit, ben, si Woodruff revient cette année, peut-être servira-t-il de modèle d'échange s'il est en santé. Mais là, pas question d'échanger. Là. Non seulement on est dans la course, mais on est seulement à 4 matchs des Cubs qui connaissent une saison exceptionnelle. Ouais. Alors, on est certainement dans la course pour les équipes repêchées. Alors, on va, selon moi, on va se battre. On va être des acheteurs et non des vendeurs. On verra ce que ça va avoir l'air de quoi au cours des prochaines semaines. Mais tout un retour là, d'avoir la qualité d'un tel joueur pour le dernier droit. Là.
Oui, avec Tampa, Marc, Ha Sung Kim, finalement, a fait ses débuts au cours de la dernière fin de semaine. On va le faire jouer où? Au deuxième but, je pense que Lau est là pour rester, surtout qu'il a une bonne saison. À l'arrêt court, on a Walls, ne fera pas beaucoup, mais Marc, il a de loin le WAR le plus élevé, toutes positions confondues dans la Ligue américaine. Donc, son gain est assez bon pour endurer son coup de bâton qui est en bas de la moyenne, mais Marc, sa contribution défensive fait en sorte que tu ne peux pas l'enlever.
Ben, écoute, on va manœuvrer avec ça. Kim a des bonnes mains aussi. Là. C'est un excellent joueur en défense. On pourrait peut-être en donner un petit peu plus en attaque. On va le tester. Ouais. C'est sûr qu'on va le tester. Connaissant les Rays, de toute façon, on fait des tests à tous les matchs. Là. Mais on va trouver une solution à ça, clairement. Mais les Rays, Alain, sont une meilleure équipe avec Kim. Alors, évidemment, on va lui donner le temps. Là. Ce gars-là n'a pas joué depuis un bon moment, là. Mais c'est un joueur de qualité, c'est un excellent joueur en défense. Ça a été un petit peu plus difficile qu'on pensait en attaque avec les Padres, mais ça reste que parfois, si ça débloque, ça peut devenir une force là, du côté des Rays. Alors, à suivre certainement. Là.
Oui. Marc, la parade des lanceurs s'est poursuivie. Je prends pour exemple Zach Pop, là, qui, aussitôt rejeté par les Mariners de Seattle, se retrouve dans la formation des majeurs, des Mets de New York, l'a perdu d'ailleurs dès son premier match. Les Mets qui ont utilisé 35 lanceurs depuis le début de l'année. On est seulement au mois de juillet. Ça va se poursuivre. Tu sais, puis évidemment, il y a peut-être, bon, je regarde, là, il y a un joueur d'opposition, là, qui c'est Jankowski, qui fait partie du groupe, mais quand même, c'est 34 lanceurs, si on veut, de métier. Ça se poursuit, le marché va être, oui, peut-être encore plus élevé. Le marché des lanceurs gauchers, je regardais encore, Marc, les Yankees et les Mets principalement, peut-être les Phillies, mais les Phillies vont compter sur le retour d'Alvarado, donc on va peut-être être plus patient de ce côté-là, mais c'est ceux qui ont besoin, écoute, s'il y a un lanceur gaucher disponible à quelque part, là, on va probablement regarder les deux clubs de New York là, pour s'en trouver un, parce que là, Tim Hill est tout seul.
Mais Alain, écoute, regarde, moi, ce que je remarque, c'est que tous les matchs que l'on fait à RDS, avant les matchs, on regarde les formations, puis il y a toujours deux, trois nouveaux noms, des releveurs rappelés, des gars qu'on essaie de leur donner une chance, on les teste. C'est, je veux dire, il y a un roulement, peut-être c'est moi, là, mais j'ai l'impression que cette année, il y a un roulement qui est encore plus important dans la plupart des équipes chez les releveurs. Et c'est le neuro qui tourne. Alors, ça va être un marché très ouvert, selon moi, là, à la marché là, de la date limite des transactions pour des releveurs. Puis, tu as raison, Alain, de mentionner les deux équipes de New York, mais tu pourrais regarder là toutes les équipes qui devraient être acheteurs, puis ils ont tous besoin à peu près de la même affaire. Ça ne veut pas dire que New York va les avoir.
Il y a peut-être San Diego, Marc, qui se démarque. On les a fait ce dimanche. Ils ont un personnel de releveurs assez impressionnant. Merci. C'est peut-être du côté des Padres qu'on va chercher plus un bâton là, ou deux. Et pas nécessairement la crème de la crème. Il y a même, tu sais, comme frappeur de choix, on aurait besoin de quelqu'un ou comme voltigeur de gauche, dépendant de comment on va jongler avec nos dés. Receveur, est-ce que, bon, Maldonado, on l'aime beaucoup, visiblement, en défense, parce que sans ça, il ne serait pas avec l'équipe. Mais ça prendrait quelqu'un pour l'appuyer à l'attaque, là, quelqu'un qui est supérieur. Puis on a même, moi, je serais pas surpris que Higashioka retourne avec les Padres de San Diego éventuellement, là. Même si, dans le cas d'Higashioka, il y a un contrat encore pour l'année prochaine, mais il a été quand même un rouage important l'année passée pour les Padres.
Ouais, surprenant, effectivement, qu'on l'a pas gardé à ce niveau-là, mais peut-être qu'on réalise. C'est vrai que les Padres ne seront pas sur le marché pour des releveurs.
Ouais.
C'est peut-être l'équipe, justement, qui va pouvoir aller chercher une couple de joueurs. Puis, en même temps, tu dis, on a peut-être pas. Moi, j'aimerais ça les voir aller chercher un premier but là, qui frappe avec un peu plus de puissance. Toi, tu as mentionné Jake Berger dans notre reportage, qui n'est pas une mauvaise chose. Ça serait déjà mieux de ce qu'on a présentement. Une des pires équipes. Pour le MPP, pour le frappeur de choix, là, ce sont les Padres de San Diego. Fait qu'un petit peu d'aide de ce côté-là, ça nuirait certainement pas. Mais on n'échangera pas nos releveurs, pas parce qu'on a une belle relève qu'on va les échanger pour aller chercher de l'aide ailleurs. Moi, je pense qu'on conserve ce qu'on a en relève et on va aller chercher ailleurs ce qu'on peut aller chercher à ce niveau-là.
Ouais. Marc, est-ce que la blessure chez les Braves d'Atlanta, là, bon, le dernier en liste, là, c'est Schwellenbach. Est-ce que ça vient fermer un peu les ambitions des Braves d'Atlanta pour 2025?
Oui, et même si Profar est revenu là, à suite de sa suspension, on a laissé aller Alex Verdugo. Écoute, les 4 des 5 partants de début de saison qui sont sur la touche. Une année plate, une année comme ça, malheureusement, les attentes étaient très élevées. On se disait avec le retour de Strider, le retour d'Acuna Junior, normalement tôt en saison, et c'est effectivement, avéré le cas, mais ça n'a jamais levé, Alain. Ça n'a jamais levé. Ouais. On s'approchait de 500, on s'est rééloigné. C'est un peu plus inquiétant là, ce qui se passe avec les Braves. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, comment Alex Antopoulos va gérer la situation, mais certainement qu'Atlanta et Baltimore, ce sont les deux équipes là, qui déçoivent, là, selon ce qu'on anticipait en début de saison, c'est les deux équipes qui déçoivent le plus.
Les deux équipes sont affrontées en fin de semaine, Marc. On aurait pu voir ces deux équipes en série mondiale. On aurait dit, ben oui, il y a du talent dans ces deux équipes-là, puis il n'y en a pas une des deux probablement qui va se retrouver en série. Marc, on va finir en parlant de Kevin Pillar. Première des choses, chapeau pour une carrière d'une dizaine d'années. Il a atteint ses 10 ans d'ancienneté, donc a tous les avantages d'un retraité du baseball majeur. C'est un gars qui était en deuxième division, hein, faut bien le mentionner là. Donc c'était pas un prospect de haut niveau lorsqu'il a été repêché, mais c'est un gars à qui on pouvait pas certes reprocher son éthique de travail. en entrevue à la suite de sa retraite, a été quand même assez candide sur l'atmosphère qui prévaut chez les Rangers du Texas. C'est pas que c'est négatif, c'est pas que c'est désagréable, mais ce qu'il a trouvé comparativement aux organisations avec lesquelles il a joué avant, c'est qu'il n'a pas trouvé qu'il y avait beaucoup de cohésion entre les joueurs. Je sais, je le répète, je l'ai mentionné, le baseball, c'est un sport d'équipe très individuel. Puis ça a l'air à se confirmer avec les Rangers du Texas. Mais Marc, tu as joué au baseball, puis ça prend un minimum quand même. Là. Tu passes 6 mois avec les mêmes gars, faut que tu rentres et que tu aies le goût de voir les gars avec qui tu vas passer. Tu sais, tu vas passer une bonne partie de ta journée. Là.
Tu sais, Alain, on a mis beaucoup l'emphase sur les statistiques avancées, les et pour cause, là, ben, tout ce qu'on a, la technologie qui est embarquée dans le baseball, puis c'est plein de bonnes affaires là-dedans. Mais on n'est pas capable de mesurer la synergie puis d'une équipe. Puis moi, je vais te dire une chose, c'est un aspect tellement important. Et je sais que tu l'as dit, là, c'est un sport d'équipe mais très individuel, mais ça reste que tu as besoin. Tu sais, tu peux pas faire ça tout seul, là. Tu sais, de 1 à 9, tu sais, ton meilleur joueur, tu peux pas le mettre sur 2 trios, là. Tu peux pas dire à Judge, tu vas frapper à toutes les manches parce que t'es meilleur que les autres, là. Ça marche pas de même. T'as besoin de ton coéquipier. T'as besoin des gars sur les buts. Tu sais, le gars qui a 100 points produits, là, il a pas produit tout seul dans le sens que ça prenait des gars sur les sentiers. Donc, oui, c'est très individuel parce que t'es tout seul au bâton, là, contre le lanceur. Si la balle est frappée vers toi au champ droit, ben, c'est juste toi qui peux l'attraper. Je comprends ça. Mais l'aspect équipe, est primordial. Moi, j'ai joué dans des équipes, Alain, où c'était très individuel. J'ai joué dans des équipes où on était très unis. C'était un monde de différence. Puis, tu sais, à la fin de l'année, là, c'est pas grand, c'est une coupe de victoire des fois ou une coupe de défaite qui fait toute la différence. Mais quand t'as la synergie, il y a quelque chose de spécial. Alors, regarde les Blue Jays de Toronto, là. En entrevue, tout le monde le dit. Il dit, écoute, on a tellement de fun ensemble en ce moment, puis on est tout en train, bon. Alors que chez les Rangers, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'attaque? Est-ce que ce sont des... Puis, tu sais, il y a une autre affaire que je veux ajouter, là, c'est que, tu sais, c'est un travail. Tu es un joueur de baseball professionnel, tu es un travail. Fait que tu as l'impression des fois que les gars, ben, excusez l'expression, mais ils punch in, tu sais, tu mets ta carte, tu rentres, puis tu sors après le match, puis tu punch out. Pas nécessairement la meilleure façon de voir les choses dans lorsque tu étais un athlète professionnel. Tu sais, même les Rockies, imagine-toi, ça doit pas être facile de punch in puis punch out là à ce niveau-là. Mais fait qu'il faut que tu aies du plaisir. Tu sais, je veux dire, oui, faut que tu sois bon sur le terrain, faut que tu fais. Mais le premier critère, c'est d'avoir du fun. Fait que tu veux rentrer dans un vestiaire où c'est le fun. T'as des gars qui sont drôles, t'as des gars qui mettent de l'ambiance, t'as des gars qui ont de l'énergie. Puis là, à un moment donné, ben ça colle. Tu sais. Pour avoir été proche de l'édition 94 des Expos, là, je veux pas retourner trop dans le passé, mais ben ouais. Ça, là, les Expos, là, c'était à la limite de l'arrogance, tellement on avait du fun, puis que les gars disaient, regarde, on perd 7-0 après une manche, pas grave, on va revenir dans ce game-là, regarde, c'est le lanceur à l'autre bord, et on est capable de le frapper. Tu sais, ce genre d'attitude-là, c'est important, surtout sur une saison de 162 matchs. Est-ce que c'est parfait pendant 162? Non. Mais tu vas en gagner pas mal plus que tu vas en perdre si tu as cette attitude-là, contrairement à une équipe qui, bon, se retient un peu. Donc, ça pour répondre à la question, avec le rendement que je vois, avec les vétérans qui sont en place du côté des Rangers, je n'ai pas surpris d'avoir entendu ça de la part de Kevin Peller.
Ben, c'est qui les leaders? Dans le fond, c'est que ça te prend quelqu'un qui prenne en charge l'équipe, tu sais, tu regardes les équipes gagnantes, tu peux presque les identifier. C'est qui les leaders? Bon, regarde à Boston, on a donné le gros contrat à Raphaël Devers pour qu'il prenne un peu ce rôle-là, ce qu'il n'a visiblement pas voulu à la lumière là, des informations qui sont sorties depuis qu'il est parti de Boston. Tu sais, bon, tu regardes les gros salariés, bon, Corey Seager, Marcus Semien, tu sais, puis moi, je me pose la question, tu sais, les dangereuses ont quand même beaucoup de sous. Quand Seager est devenu joueur autonome, c'est super économie qu'on a laissé aller Seager. On avait Gavin Lux qui s'en venait. Mais Gavin Lux, Marc, rappelle-toi, t'es pas capable de faire un relais de l'haricot au premier but. On en avait déjà un très, très bon. Je me pose des questions un petit peu. Je te dis pas que c'est une mauvaise influence. Je te dis juste que est-ce que c'est un gars qui est prêt à prendre des responsabilités de leader au sein d'une équipe? Pas sûr, là.
Ben, écoute, regarde, on a gagné une série mondiale, donc ouais. On ne doit pas être si... mais ouais. Il ne semble pas être évidemment un leader vocal. Ça semble plus un gars qui...
Qui fait son affaire.
Exact. Mais qui donne l'exemple par ce qu'il fait. C'est correct aussi, évidemment, mais on a un paquet de jeunes qui arrivent chez les Rangers. Est-ce que ça devient un peu différent de voir ça? Est-ce qu'on aimerait ça justement avoir un vétéran qui tire un peu la couverte puis en disant hey, les gars, faut vraiment faire les choses d'une autre manière. Mais ton point est intéressant. Tu sais, c'est peut-être un aspect pourquoi les Dodgers n'ont pas retenu ou n'ont pas offert de contrat éventuel à Corey Seager. Peut-être qu'on s'est dit excellent joueur, mais qui a la, je sais pas là. Évidemment, là,
on spécule
à ce niveau-là. Mais je sais que les deux gars qui ont 300 millions, des contrats de 300 millions avec les Rangers, c'est pas nécessairement les gars qui vont l'aider par, vocalement. C'est des gars qui sont très calmes, qui font leurs affaires. C'est correct aussi là, c'est parfait aussi. Mais je pense que ça prend un mélange, ça prend certainement une couple de gars là-dedans qui est peut-être un petit peu plus rassembleur. Et qui peut faire la différence dans un esprit d'équipe.
J'ai vu deux noms, Marc, en 2023 là, qui m'ont frappé et qui peut-être avaient ce rôle-là qu'on n'a pas aujourd'hui parmi les joueurs qui étaient des substituts. Tu sais, Robbie Grossman, Mitch Garver, c'est des gars qui avaient du vécu, qui avaient une trentaine d'années. C'est peut-être des gars qui prenaient un peu plus de place et qui avaient une importance peut-être plus élevée qu'on l'avait évalué à l'époque. Là.
Absolument. Puis je me répète un peu, mais ne négligez pas cet aspect-là dans une équipe. Mm-hmm. Je sais qu'on peut pas le calculer, c'est pas une statistique, c'est pas si, mais c'est très important. Puis, tu sais, le gérant peut faire certaines choses, là, mais ça vient, faut que ça vienne des joueurs, ça. Faut que ça vienne des vétérans. C'est pour ça que tu as toujours l'aspect vétéran-jeune. C'est pour ça que je dis souvent, vous pouvez pas mettre juste des jeunes sur un terrain de balle. Ça prend des gars qui ont du vécu, ça prend des gars qui ont des voix, ça prend des gars qui sont capables de guider un peu. C'est ça qui fait un tout. C'est ça qui fait qu'une équipe, à un moment donné, va connaître du succès. Ça j'y crois, là. J'y crois vraiment, vraiment très fort à ce niveau-là. Fait que, c'est pour ça, des fois, tu regardes les Orioles, tu dis, est-ce qu'il manque la présence d'une couple de vétérans vraiment forts à ce niveau-là? Peut-être, peut-être pas. Mais il y a quelque chose, certes, qu'on a besoin parfois de modifier pour que passer 6 mois, et on va ajouter même 7 mois si tu te rends en série mondiale, Alain, là, c'est 6 mois passés ensemble. Mm-hmm. Et à chaque série mondiale, tu vas interviewer les joueurs, ils disent quoi? Ils disent tout le temps la même affaire. Ils disent, quelle équipe cette année? On l'a vraiment fait tirer la courbe. Tu sais, on a tiré la corde de notre bord tout le temps. On était ensemble là-dedans. Fait que c'est immanquable. Ça fait partie des solutions d'avoir une équipe championne.
Absolument. Écoute, bonne réflexion là pour terminer ce balado. L'horaire des matchs de la semaine à RDS, c'est une présentation de Lester, c'est le maître du smoked meat et des hot dogs depuis 1931. Party entre amis, un match, un barbecue à l'extérieur. Lester est toujours rendez-vous, disponible chez votre épicier préféré. Deux matchs, ce lundi, 18h30, on verra la meilleure équipe du baseball majeur, le meilleur dossier, les Tigers de Détroit à domicile face aux Rays de Tampa. C'est toujours intéressant de voir les Rays, c'est un match présenté à RDS et mercredi. On verra à l'œuvre, Marc, deux des meilleurs cogneurs de circuit de la saison, Cal Raleigh et Aaron Judge, alors que les Mariners seront à Seattle contre les Yankees, match présenté à 19h à RDS2. Il n'y aura pas de match le dimanche en raison de la pause habituelle du match des étoiles. Il n'y a jamais de match le dimanche soir, la veille évidemment des célébrations du match des étoiles. Voilà ce qui complète ce balado. On se retrouve la semaine prochaine. Évidemment, il y a des transactions qui s'en viennent dans les 3 prochaines semaines. On sera à l'affût comme à l'habitude. Bonne semaine tout le monde.
Balado Compte Complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fier partenaire de votre passion, et par les Capitales de Québec. C'est plus qu'accessible, c'est plus que du baseball.